J'étais petite, il y avait un endroit, loin dans le bois, où je n'allais que l'été. On partait à vélo avec des copains, et on roulait un moment sur les chemins, à travers les champs. On s'enfonçait ensuite dans le bois, à pied. Il fallait traverser une clairière et avancer encore. On arrivait alors devant une sorte de terrier. C'était l'entrée d'une grotte. Les parois étaient humides, de l'eau gouttait du plafond. Il y avait des stalactites, des stalagmites et des chauves-souris endormies. Peut-être que des hommes préhistoriques avaient vécu là. Quand on en ressortait, on avait toujours besoin d'un moment pour se réadapter. C'était comme si on traversait un passage spatio-temporel. L'année dernière, j'ai voulu montrer la grotte à ma copine et à mon neveu. On a cherché un bon moment dans la forêt. Je reconnaissais bien les lieux, mais je ne l'ai pas retrouvé. Peut-être que seuls les enfants pouvaient en voir l'entrée. Bonjour Véro.
Bonjour Simon.
Ce petit texte que je viens de vous lire, qui nous rappelle l'enfance, qui nous rappelle plein de belles choses, c'est un des textes d'un album dont on va reparler évidemment pendant l'émission, qui s'appelle « Au bois » de Charline Collette, publié au Fourmis Rouge. C'est l'un de nos coups de cœur de la soirée. On va évidemment vous en parler pendant cette émission, comme on va vous parler, comme d'habitude, de plein de livres.
C'est ça. Mais il y a beaucoup de forêts. Finalement, la forêt, c'est... Enfin, l'enfance, c'est une forêt.
Oui, et puis on a envie de se réfugier, voilà. Je pense, dans cette forêt.
Et puis d'aller explorer aussi.
Elle nous a un peu manqué pendant quelques temps.
Oui,
donc,
je pense que c'est ça.
Donc, voilà.
Plein de forêts.
Vous avez amené plein de belles choses.
Oui, avec plein de forêts.
Moi aussi. Donc c'est super. Et ben, donc on est ravis de vous retrouver pour cette deuxième émission de l'année. On lit quoi nous ? Voilà. On a plein de belles choses à vous montrer, à vous présenter. On commence comme d'habitude en musique. Aujourd'hui, on a choisi un disque qui s'appelle Cantine et berceuse de vanille, publié chez Didier Jeunesse. Et on écoute tout de suite Une petite fleur l'amour.
Dodo, petit baba, cherche ton maman avec son papa. Dodo, petit baba, cherche ton maman avec son papa.
Belle aux mille oiseaux, si fiche à mal comme il est marron. Un petit fleur l'amour, la belle aux mille oiseaux, si fiche à mal comme il est marron. Dodo, petit baba, sans histoire maman avec son papa. Dodo, petit baba, sans histoire maman.
Donc c'était donc Une petite fleur, l'amour. C'est chanté par une petite fille qui s'appelle Héloïse Agénor Poinceau et également Jean-Christophe Hoirot. Donc cet album Contine et berceuse de vanille, dans la très belle collection Contine du monde de Didier Jeunesse, vous savez, les grands livres CD, comme les plus connus, c'est Contine du baobab, voilà. Et là, cette fois-ci, ils vont nous emmener des rives de l'Afrique aux îles de l'océan Indien. Pardon. En gros, toute la côte est de l'Afrique, et puis les petites îles qui vont de Madagascar. Alors, il y a Comores, il y a évidemment La Réunion. Là, ce qu'on a entendu, c'était du créole réunionnais. Mmh. Voilà. L'Afrique du Sud, le Kenya, le Mozambique. Enfin, comme d'habitude, on trouve toute la richesse du travail de chez Didier Jeunesse pour collecter en fait toutes ces comptines, ces chansons. Voilà, donc il s'attaque à un nouveau monde. Le livre en plus est magnifique, il est illustré par Magali Atiogbe, qu'on avait notamment découvert dans un Imagier de l'Afrique, qui est absolument superbe.
Ah oui, c'est elle.
Et là, donc, elle illustre chacune des chansons de fort belle manière. Voilà, c'est un très très bel album, comme d'habitude dans ces grands livres CD. Et on écoutera d'autres morceaux tout à l'heure. Allez, on y va ?
On y va ?
On
y va ?
On commence ?
Oui, on
commence. On a plein d'albums cette fois-ci.
Et puis plein d'albums qui font du bien, des albums zen, des albums d'histoires simples, de nature, des animaux anthropomorphes, remplis de douceur, de bienveillance, sans jamais tomber dans la bisounourserie. C'est mieux que niaiserie.
C'est bien la bisounourserie. J'aime bien.
Et donc... ce sont vraiment des chroniques chaleureuses de la vie de la forêt. Avec Poèmes d'été, on retrouve Renard et Lapine de Sylvia Vandenhead et Tae Jong King. On est chez L'Agrume. Ils n'avaient pas été édités chez Autrement il y a longtemps. J'ai cru voir ça en remontant.
C'est possible.
Mais donc c'est très bien que L'Agrume ait repris aussi, enfin ait continué ses histoires. Et donc ce sont des histoires très, enfin vraiment des chroniques quotidiennes avec Renard qui vient voir Hibou qui a décidé d'écrire de la poésie. Et il veut se lancer dans un poème, voilà, et il a qu'une seule phrase, c'est « Je suis Hibou ». Et il ne sait pas quoi écrire après. Donc le renard essaye de l'aider. Il se moque un peu, le renard. Il est un peu moqueur, hein, quand même. Et puis la pluie...
Il est toujours un petit peu moqueur. Ouais, moi, j'aime bien Renard.
Ouais, c'est vrai. Lapine aussi, hein, je l'ai découverte railleuse un petit peu. Hein.
Normalement, elle est plutôt calme, elle.
Oui, mais là, elle s'est moquée du loup parce que c'était... Et donc, les gouttes de pluie arrivent. Hein, voilà. Je suis un hibou mouillé par la pluie. Et Renard lui dit, c'est même pas de la poésie, ça rime pas. Et Renard a une super idée, moi je trouve, c'est « Je suis un oiseau de nuit mouillé par la pluie », voilà, c'est ça. Et ils vont rentrer parce que l'orage va se déchaîner et ils vont rentrer dans le terrier de Lapine. Ils vont tous se retrouver comme des potes, c'est chaleureux, ils sont dedans à l'abri, comme on aime, avec l'orage qui se déchaîne dehors. Et ils font, quand ils lancent des cailloux, Hibou a une tête de chou, ils n'arrêtent pas. Il charrie un petit peu Hibou, c'est vrai, c'est drôle, mais ça reste tellement gentil, tellement...
C'est tendre.
Tendre, voilà, c'est ça. Et en même temps, ils ont peur de l'orage, ça les inquiète tous, mais alors ils se mettent sous la table. Hein, ils se mettent tous sous la table et ils continuent à faire de la poésie sous la table. Voilà, quelque chose de très simple à leur habitude, c'est souvent ce type de chronique, avec le style de Tae Jong King, j'espère que je le prononce bien. C'est un style qui est vivant, qui est expressif, animé à tel point qu'ils en ont fait un dessin, enfin qu'il y a une série d'animation sur Renard et Lapine,
vous pouvez regarder
oui,
ça.
Sur Pee-wee. J'ai regardé des petits extraits.
C'est génial.
C'est vraiment, on retrouve l'esprit.
C'est tout en animation, en pâte à modeler, en 3D en tout cas.
3D, ouais.
Et donc c'est différent de l'illustration, mais c'est vrai que les deux se complètent très très bien.
Oui, tout à fait.
Donc, alors, voilà, c'est une série ultra connue aux Pays-Bas.
Oui, apparemment, oui, ça vient.
C'est un très gros succès. Son auteur, donc Jong King, il a gagné 3 Golden Pencil.
Oui, qui est le grand prix là-bas.
Le pinceau d'or, en fait, c'est le
pinceau d'or. Voilà. Ah, comment vous dites Golden Pencil?
Golden Pencil.
C'est un vague ressemblance avec l'anglais, quand même.
Oui, tout à fait. Ouais. Et donc, oui, c'est une série qui a traîné pour venir en France, mais là je suis content parce que L'Agrume effectivement fait un très beau travail. Et puis l'édition est jolie parce que c'est des petites pages presque
cartonnées. Alors c'est cartonné, oui. C'est vraiment un joli petit objet aussi. Et j'ai décidé d'en faire une bibliothèque de zen. Je trouverai des mots, j'ai toujours du mal à trouver des mots. Mais c'est bibliothèque qui parle de forêt, de nature, d'amitié, de bienveillance et de poésie.
Très bien. Voilà. Ben moi aussi j'en ai un très très beau. J'ai Rosie de Gaëtan Doremus. Alors Gaëtan Doremus, publié au Rouergue. Ah, oui. Gaëtan Doremus, on le connaît, il a été plusieurs fois récompensé dans des grands prix internationaux, il avait eu une mention à Bologne, carrément, aussi dans le New York Times, voilà. Enfin, donc c'est quelqu'un qui est reconnu en France, mais aussi à l'international. Et puis là, depuis quelques temps, il a travaillé vraiment pour les plus petits. avec des albums
un ours,
très tendres.
Il y a pas très longtemps.
Et oui, tout à fait. Bah, le petit ours qui fait ses premiers pas.
Oui,
en fait,
vous en avez parlé.
Voilà. Oui, j'en avais déjà parlé.
Je
non, c'est moi. Et donc, il continue cette trilogie en fait dédiée à la plus jeune enfance avec ce Rosie. Rosie, c'est une petite araignée qu'on découvre sur la couverture, toute de rose vêtue, comme son prénom. Et cette petite Rosie, elle gambade joyeusement dans la nature et à la recherche de son fil. Elle a perdu son fil.
Bah oui, c'est ballon, ça.
Voilà. Donc à chaque fois, elle pense le retrouver. Et mais non, c'est pas ton fil, c'est Maliane.
Il y a beaucoup de fils dans la nature.
Voilà, c'est ça. Donc à chaque fois, elle va se tromper, évidemment. Elle va voir à qui appartient réellement ce qu'elle croyait être son fil.
Elle va remonter le fil.
Elle est toujours un petit peu déçue quand même, parce qu'à chaque fois, elle pense l'avoir trouvé.
Elle fait fausse route.
Mais alors, les couleurs sont magnifiques.
Là, les champignons, ça donne... Enfin... Je ne suis pas sûre qu'ils soient tous mangeables.
C'est la période, en fait. Oui. Bon, c'est vrai qu'ils ont des couleurs un peu flashy, hein, je ne suis pas certain. Dans la nature, si on les voyait, je ne suis pas certain. En tout cas, on accompagne cette petite araignée dans ses aventures. Les illustrations...
Oh, la belle grenouille avec ses bottes.
Ouais, les illustrations de Gaëtan Doremus sont vraiment magnifiques. Moi, j'aime beaucoup parce que c'est à la fois touffu et dépouillé. C'est-à-dire que y a, dans le dessin, c'est dense, il y a beaucoup de couleurs, mais il y a toujours un fond blanc qui permet de respirer
de
aussi dans l'image. Voilà.
Et, on dirait presque des photos par moment,
et
de loin.
Bah vous êtes plus loin, donc effectivement, moi je vois bien que c'est quand même du dessin.
Ouais. Hein, ouais.
En tout cas, c'est un album qui s'adresse vraiment aux plus jeunes, hein, à partir de 2-3 ans.
Il y a une embrouille dans le fil.
Ah oui, là le fil il s'est un peu emmêlé. Mais bon, elle a bien aimé, c'était rigolo quand même. Et la chute, évidemment, je ne vais pas vous la raconter, mais elle est très très jolie. En tout cas, c'est vraiment un album qui s'adresse aux plus petits et évidemment aux plus grands. Oui. Hein, on ne dira jamais assez qu'il y a un âge en fait, de début, on va dire.
Palier.
Ouais, de début en fait.
De début.
Où on peut commencer à lire les albums et puis après, hop.
Après, il n'y a plus de limite.
Hop, voilà, c'est ça. Ouais. Et cet âge, en fait, il dépend de chaque enfant. Il n'est pas fixe. Donc
oui,
on ne peut pas dire que c'est à partir
exactement.
De 6 mois voilà, ou de 12 mois ou de 14 mois.
Comme vous dites justement, ce ne sont pas des vêtements.
Exactement, ce sont des enfants. Donc ils vivent. Donc ce livre, à partir de, vous le verrez avec votre enfant, jusqu'à plus d'âge.
Voilà.
Voilà. Donc Rosie de Gaëtan Doremus. On continue, on va monter un petit peu pour les un petit peu plus gros. Vous avez envie de nous faire rigoler. J'ai l'impression que vous avez envie de... Ah non, mais je vous vois à votre tête là, qui souriez derrière le micro.
Oui, c'est ça. Hein, voilà. Ouais, ça s'entend, ma voix elle sourit.
Voilà, c'est ça.
Voilà.
Eh bien, faites-nous rigoler alors, allez-y.
Là, j'en ai deux d'une série de quatre. Il y en a peut-être eu d'autres depuis, je ne sais pas. On est chez La Poule qui pond. Ça tombe bien parce que je vous parlais de l'œuf, Billy. Et c'est Julie Bullier qui a décidé de mettre en scène des objets du quotidien, des objets du quotidien. Alors, ce n'est pas vraiment des objets, des aliments du quotidien, on va dire ça comme ça. Pas seulement, il y a Edith La Chaussette aussi, voilà, des choses qu'on va trouver dans le quotidien et dont on ne soupçonne absolument pas la vie intérieure qu'ils peuvent avoir, absolument passionnante. Et il y a Billy, l'œuf au plat. Alors, je vous engage à aller voir les dessins parce que Billy, l'œuf au plat, il est, évidemment, vous voyez un œuf au plat. Il est entouré de sa belle robe du blanc d'œuf, durci dans la poêle. Billy est un œuf au plat. Tantôt cru, tantôt cuit, des œufs, il en existe des tas. Alors, il y a tout, l'œuf à la coque, l'œuf de Pâques, machin. Et Billy aime danser, mais danser seul, c'est un peu triste. Alors, on est un petit peu auprès de... Enfin, un peu dans la danse classique aussi, quand même. Parce qu'il y a le tutu blanc de Billy qui fait que... Et il décide de trouver parmi ses amis un partenaire pour danser avec lui. Alors, il y a Marcel et sa bande de durs. Donc, bon, bah là, c'est pas trop possible. Hein, ils se tapent dessus. Donc, Gaspard, Balthazar et Melchior, ça me dit quelque chose. Ça, c'est... Bah, ils mélangent un peu là, les œufs de Pâques que jouent à cache-cache. Alain, l'œuf à la coque, fait une course avec Mario, la cuillère, et Luigi, la salière. Donc, et Noël et Liam, les œufs brouillés, ne se quittent plus. Enfin, voilà. C'est... Et Billy se sent bien seul, mais il va finir par trouver un ami pour danser avec lui. Les dessins sont irrésistibles, les jeux de mots du texte font écho au dessin. C'est vraiment, ce sont des petits livres carrés, carrément irrésistibles, moi je trouve.
Et puis il y a un gros hommage quand même. Un gros hommage.
Un gros hommage.
Un gros hommage.
Alors dans l'œuf au plat ou dans...
Non, dans la collection.
Dans la collection qui s'appelle...
Les Monsieur Madame, quand même.
Les Bidules Chouettes.
Bah, c'est les Monsieur Madame, quand même. Quand on voit...
Vous voyez les Monsieur
Madame. Ah, ben oui, mais le même format,
c'est vrai,
les mêmes
vous
couleurs.
Vous avez raison. J'ai même pas vu les Monsieur Madame.
Même, regardez les pages de garde.
Ah, les pages... Ah, mais
dans les
oui.
Monsieur Madame, vous avez
tous les personnages.
Tous les personnages.
Sont... Ah. Avec je vous laisse, je vais regarder de près. Alors, non, voilà. Donc, il y a Jacques le pain de mie. Hein. Jacques le pain de mie, je le fais très vite, hein, promis, très vite. Jacques est une tranche de pain de mie. Il a 14 frères et sœurs qui lui ressemblent parfaitement. Ils vivent avec leurs parents entassés dans un sachet transparent. Oh, c'est une tour HLM, hein, là, à mon avis. Hein. Et pour s'aérer un peu, la bande part souvent en vacances. Jacques y trouve plein d'amis. Il y a Loïc le beurre salé qui vient de Bretagne. Victor le couteau qui vient de Suisse. Et ensemble, ils jouent au ballon. Et ils vont faire du surf sur la planche de beurre. Bref, ils se payent une bonne tranche de rigolade, mais ce que Jacques préfère, c'est aller se faire dorer et de se démarquer ainsi de ses 14 frères et sœurs. Voilà, ça, c'est très court, hein, lecture, mais c'est drôle. C'est franchement drôle, aller voir Hercule le poireau et Edith la chaussette. On est chez La Poule qui pond de Julie Bullier, la collection Les Bidules Chouettes. Hommage, monsieur et madame.
Voilà. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai vu de loin.
Non, mais c'est bien, c'est bien.
Vous voulez encore nous raconter une histoire drôle ?
Oui, faut que je fasse... Là, je ne vais pas tout vous raconter parce qu'elle est assez longue, cette histoire. C'est paf avec un point d'exclamation, paf, paf, comme ça. Là.
Et on peut dire quelque chose aussi, du coup, sur ce paf, parce que...
Qu'est-ce que vous allez encore me dire ? Alors, il y a un hommage ?
Non, c'est pour si les gens veulent le lire en entier, il y a une très belle vidéo où on le voit en entier. L'éditeur Alice... a fait une... c'est pas une lecture, en fait. C'est une sorte de lecture en vidéo de l'album.
D'accord. Donc, en plus, je ne veux pas tout dire parce que c'est un vrai polar.
Ah oui, non, il ne faut pas
tout
dire.
C'est absolument insupportable comme attente. On se demande ce qui se passe. Et il y a une enquête de menée parce que sur le mur d'une maison, d'une chambre d'une maison, il y a la trace d'une main, du sang partout. Et il va y avoir une enquête de la part, alors ils vont arriver, hein, de la part de Lipstick et du commissaire Rustique, hein, qui vont enquêter d'après le cadavre qu'ils ont trouvé et qui se trouve au milieu d'une main. Voilà, je vous dis que ça parce que c'est vraiment très très drôle. C'est ça se passe à nuit, donc c'est assez sombre, hein, comme illustration et tout. Non. Et voilà, que puis-je dire d'autre sur... Alors, on est chez Alice, comme vous le disiez, c'est de Jérôme Camille.
Je vais la faire craquer. Paf ! Pardon.
Voilà. C'est très, très drôle. Et c'est assez long, mais on ne s'ennuie pas du tout. Parce que
c'est un polar.
On va vraiment d'indice en indice.
Il manque le petit bandeau, le thriller de l'été.
Regardez-moi le bandeau police.
Il y a le truc police, ouais, c'est vrai. Voilà. Non, mais le bandeau, comme les livres, comme les polars.
Ah oui, en fait. Bandeau, oui.
Lu par Stephen King.
Voilà.
Sur les trucs pareils, en fait, ils mettent... Les éditeurs, franchement, faites un petit peu preuve d'originalité. Ouais,
d'originalité ou d'audace aussi.
Stephen King a adoré.
Oui, machin. Voilà.
Enfin, exactement. Tous les trucs qui viennent des États-Unis, en fait, c'est souvent ça, quoi. Selon le genre. Bon, allez.
C'est vrai. Voilà.
C'était un petit coup de gueule. Et paf.
Oh là là, et paf.
Allez. On a bien ri.
Ah bah oui.
Je vais un peu casser l'ambiance.
Ça fait partie
tout de suite.
De la vie.
Oui, en même temps, voilà, dans la vie, on rit et puis des fois on pleure.
On pleure
et
bien
là,
on
va bien pleurer.
On avec... rit pour ne pas pleurer.
Voilà.
C'est bien.
C'est beau. Ah. Là, on a un livre très touchant qui s'appelle L'enfant et le gorille. C'est écrit par Jackie Uzua Kramer et illustré par Cindy Derby. Et c'est franchement un livre magnifique. C'est un livre qui aborde le sujet du décès. Et ça faisait longtemps que je n'avais pas lu un ouvrage aussi touchant sur ce sujet-là. Je pense que le dernier qui m'a autant touché, c'est La Croûte de Charlotte Mundlik et Olivier Talek. Ouais. Mais en fait, c'est un sujet où même si on a l'impression qu'il n'y a pas grand-chose, il y a quand même pas mal de productions. Il y a souvent des ouvrages qui parlent de ça.
C'est vrai,
Et puis beaucoup... pour rassurer l'enfant.
Pour le grand-père, la grand-mère. S'il y avait le souffle de ma mamie dans le ballon.
Il y en a vraiment des super. Hein. Mais je trouve qu'il y en a assez peu qui, en le lisant nous-mêmes, on a vraiment une émotion. Et là, je l'ai lu il n'y a pas très longtemps devant un groupe d'adultes. Et j'ai senti dans la salle, en fait, une espèce de poids, de silence, d'écoute, en fait, de qualité d'écoute aussi. Et ça, c'est dû seulement à certains albums. Alors, je ne vais pas lire en entier parce que il faut avoir les illustrations avec. Franchement, là, c'est vraiment un livre qui se raconte avec les images. Il y a une grande partie de ce qui passe par l'image. En gros, on va suivre l'histoire d'un jeune garçon. Ce jeune garçon, il vient de perdre sa mère. Et il est suivi par un énorme gorille. Mais un gorille qui est vraiment bienveillant, dans le bon sens du terme, pas celui qu'on emploie tout le temps en ce moment. C'est un enfant qui a besoin d'être rassuré, qui a besoin qu'on réponde à certaines questions. Et ce gourou, il va essayer de le faire de la plus simple des manières. Et le peu de mots qu'il utilise, en fait, il est vraiment très beau. Ces mots sont vraiment très beaux, puisque elles vont aider l'enfant petit à petit à accepter, en tout cas à commencer son deuil. Ça fait le genre de petits textes comme ça. Donc la première scène, on voit le papa, le petit garçon à côté. On pense que c'est pendant après l'enterrement. Et puis le gorille qui est déjà là dans la salle, qui prend une grande place. Ensuite, le petit garçon s'est éloigné, il est dans le jardin de sa mère. Et le gorille lui dit « Le jardin de ta maman est magnifique. Est-ce que je peux t'aider ?»« D'accord. Ma maman est morte. Je sais. » Comment sait-on quand quelqu'un meurt ? Son corps ne fonctionne plus. Son cœur s'arrête de battre ? Oui. Est-ce qu'on meurt tous ? Oui, on meurt tous. Mais tu vas encore jouer avec beaucoup de cerfs-volants. Où maman est-elle partie ? Personne ne le sait. Maman est peut-être là, elle aimait les vagues. Est-ce que maman peut rentrer à la maison ? Non, mais elle est toujours avec toi. J'aimerais que maman soit là pour me lire une histoire. C'est une belle histoire. Ton papa l'aimera peut-être aussi. Je préfère le goûter de maman. Parfois, j'ai envie d'être seul. Ce n'est pas grave. Tout le monde a besoin d'un moment à soi. Je vais grimper tout en haut. Maman sera peut-être là. Je suis juste derrière toi. Pourquoi est-elle morte ? Parce que tous les êtres vivants meurent un jour. Et ça fait mal de ne pas pouvoir être avec ceux qu'on aime. Voilà, je vous laisserai découvrir la fin. Vraiment, allez voir dans vos librairies, dans vos bibliothèques, feuilletez ce livre. Prenez-le même si vous n'êtes pas... si vous n'avez pas...
concerné dans le...
Ouais, voilà, parce que je trouve que c'est des livres qui de toute façon, permettent le dialogue avec l'enfant, de parler de sujets qui sont graves, mais auxquels on est tous confrontés. Voilà, évidemment, la mort, elle est parmi nous. Et quand on a des petits bijoux comme ça qui le font d'une manière aussi fine, aussi douce, aussi belle, il faut les partager avant même d'être confronté. Ouais, moi, je suis persuadé que ça. Donc, ce travail, il est vraiment magnifique. Alors, pareil, hein, les dessins de Cindy Derby, les illustrations, c'est à tomber. Je vous incite vraiment à aller voir sur son site américain. Elle a tout un tas d'illustrations qu'elle présente. C'est mélange d'aquarelle, de fusain, d'encre de Chine. Et c'est d'une beauté. Elle a des images qui sont marquantes.
Je peux le voir en vrai.
Ouais, vous le voulez en fait, hein, c'est ça.
Non, mais je vois bien. C'est parce que j'ai l'impression qu'il y a un petit peu d'Anthony Brown.
Il y a, en fait, il y a le gorille. Donc forcément,
oui, le gorille, oui,
dès qu'on fait un gorille en illustration
non, je
jeunesse.
De moins de près, oui. Et puis cette couleur mauve comme ça.
Alors là, certains, celui de Petite Beauté, ça peut être celui le plus proche.
Oui.
Quand on a...
il y a quelque chose, mais bon...
Mais il y a une force, vraiment, cet album-là, il est magnifique.
J'espère que j'aurai un gorille au moment fatidique.
Allez, on va se remettre à l'art pour pouvoir s'en sortir.
Oui, mais c'est comme la vie et la mort, ça, et le rire, hein, c'est très fort. Donc, le jardin de Monet, Cattier, Vermeer. Vermeer, c'est pas comme le peintre, hein, c'est M-I-R-E. On est chez Versant Sud, qui m'éblouissent de livre en livre, c'est sûr. Et ce peintre, parce que je crois, alors que je ne dis pas de bêtises, c'est une peintresse ou un peintre, je ne sais plus.
Qui ça ? Cattier ? C'est
oui,
une femme.
C'est une femme. Et illustratrice flamande. Donc, c'est lancé dans... Alors, ils appellent ça sur leur site d'éditeur un documentaire narratif. Je trouve que c'est très juste, c'est exactement ça. On va suivre Monet dans sa passion des couleurs, comment cette passion est née. Le soleil brille, la mer prend un bain de lumière, on sent qu'il est né au bord de la mer. Et des taches de couleurs dansent et miroitent dans l'eau. Il ne veut jamais rentrer avec ses frères ou sœurs. Il veut rester sur la plage, voir ses jeux de lumière et de couleurs. On le suit dans son apprentissage de l'art aussi, ou de la peinture. Et puis on arrive dans son jardin où il y a une femme qu'il aime, Camille. Et chaque double page, c'est un tableau de Monet. Hein. Enfin, c'est un tableau de la vie de Monet, avec des ombres et des lumières absolument dingues. C'est vraiment dingue. C'est trop beau. Enfin, moi, je suis passionnée déjà par ce que fait Monet et l'impressionnisme. Et Et là, on est vraiment sur ce principe de tâche et on comprend mieux pourquoi ces couleurs qu'il a essayé de capturer et d'inventer et de sublimer tout au long de sa vie deviennent, sublimes, je dirais, sur la fin de sa vie, parce qu'il est de plus en plus aveugle, enfin, il voit de plus en plus mal, et ce qu'il discerne, ce sont des taches de couleurs qui vont donner des choses absolument magnifiques, comme ceci, de couleurs et de lumière, quoi. Je trouve qu'elle a su vraiment représenter... J'avais pas imaginé que ça pouvait être cette cécité naissante et galopante aussi qui a transformé ce grand peintre déjà en quelque chose de presque divin, quoi, je dirais, au niveau du regard, au niveau on est touché, forcément touché par cette lumière, quoi. Ombre et lumière en même temps, ce travail entre les deux. Peut-être que c'est pas vrai, j'ai pas été chercher, je veux pas le savoir. Je trouve que cette idée que le regard se voile et qu'en même temps la lumière s'intensifie est absolument magnifique, et c'est ce qu'on retient de cet album.
Ouais, puis c'est aussi un moyen de rentrer dans l'œuvre. Moi, je suis pas un grand connaisseur de Monet.
Et son jardin.
Mais
son jardin qu'il aimait.
De voir sa biographie, de voir comment il s'est retiré un petit peu pour faire son propre jardin, c'est très beau.
Ouais. C'est, voilà, magnifique.
Et ça a été fait, en fait, parce qu'il y a eu, une grande exposition au musée de La Haye.
Aux Pays-Bas, ouais.
Ouais, voilà, ouais, ouais.
En ce moment, elle est toujours,
je sais plus, ouais, peut-être.
Ouais. Ouais.
Voilà. Vous aviez un autre livre à nous présenter que vous avez beaucoup aimé.
Je commence à avoir un doute, j'avais dit que j'aurais regardé, mais je les mélange toujours, c'est la honte, mais vous allez m'aider. C'est Samuel Beckett, hein, En attendant Godot.
Oui.
Voilà. Je confonds avec Brecht et Beckett, je les mélange toujours. Et alors que j'ai vu deux... Enfin bref, on s'en fout. Et là, c'est En attendant Goliath. Dangier Dame. Et là, je crois que c'est un garçon.
Non, c'est une illustratrice.
Ah, je vais pas y arriver. Ah mais oui, c'est une illustratrice, j'ai sorti tous ses dessins.
Elle est allemande.
Oh, mais il est très dimanche aujourd'hui, alors hein, c'est normal. Et j'adore cet album. Il me touche. J'ai parlé de Beckett, mais parce qu'en attendant Godot, je l'ai joué, j'avais 17 ans. C'est des pièces qu'on adore quand on a 17 ans. C'est absolument. Et on est dans la même attente, dans le même néant au départ. Hein, on a cette impression. Alors, c'est pas. Moi, en attendant Godot, c'était gris, noir. Il y avait quelque chose, peut-être un lampadaire. Là, il y a de la lumière, il y a de l'automne, il y a la nuit qui va tomber aussi, mais il y a des fleurs, il y a des oiseaux. Et il y a ce Goliath qui est entre l'ours et le chien, on s'en fiche. Enfin, c'est pas grave. Il est assis sur un banc. En plus, il s'agit de découpage de papier, photographié, mis en scène. C'est un vrai régal, c'est très original. Ce Goliath a une expression incroyable, et il attend, il va attendre. Alors, je ne vais pas vous dire qui va arriver, mais à la différence de Godot, quelqu'un va arriver, et ça, c'est magnifique. Voilà, je crois que pour des enfants, il faut toujours que quelqu'un arrive.
Oui, c'est important.
Voilà, je ne vous dis pas qui, parce qu'il va attendre très, très, très longtemps. Voilà, c'est magnifique. Allez voir les illustrations. Alors, c'est pour ça que j'ai été regarder, parce qu'elle avait fait...
La visite, qui était exceptionnelle.
Et on est dans cette même construction de papier découpé, de mise en scène, de lumière. Elle montre ces petites maisons qu'elle fait, enfin cette petite pièce qu'elle éclaire et qu'elle photographie. C'est génial, voilà.
Et oui, La visite, c'était vraiment un très très beau coup de cœur. C'est vraiment une autrice qu'il faut aller découvrir, et elle est vraiment saluée en Allemagne.
Alors c'est Astrid Franchet, je ne connaissais pas du tout.
Oui, c'est un éditeur pour le coup qui, je pense, n'a quasiment que ces livres-là à son catalogue jeunesse, ouais. En fait. Mais quel livre, quoi. C'est vraiment magnifique, quoi.
Et ça m'a rappelé Beckett, voilà.
Donc c'est bien.
Ah ouais. Ah oui, c'est bien, ça.
Ouais.
Bon, je confirme.
Ouais, c'est bien. Bon allez, on va parler d'Aubois, dont je vous ai dit tout à l'heure.
Oui.
Ça mérite un petit générique coup de cœur, ça.
Oh yeah. Coup de cœur, 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 coup de cœur. Oh yeah.
Et le coup de cœur, aujourd'hui, on va reprendre « Aubois » de Charline Collette, publié aux Fourmis Rouges. Alors, pour vous raconter un petit peu comment ça fonctionne, puisque On va avoir l'impression que je lis plein de bouts d'histoire, mais non, en fait. En gros, c'est un ouvrage qui est entre la bande dessinée, l'album jeunesse, le livre sur les saisons. En gros, elle a imaginé 12 récits qui se passent au fil des saisons, justement.
Des mois.
Donc il y a les... Non, des saisons,
des
vraiment.
Saisons.
Ouais, ouais. Bah, des mois aussi, si vous voulez, mais en fait, ils sont catégorisés plutôt par saison. Et on va retrouver, en fait, les jeux d'enfants, des souvenirs de personnes adultes aussi. En gros, ce sont des histoires qu'elle a récoltées auprès d'enfants, auprès d'adultes, qu'elle a mises en scène pour créer, en fait, le lien qui unit l'homme et la forêt. Donc, c'est plein de petits moments, plein de petites histoires, comme je vous ai raconté tout à l'heure avec la grotte. Là, je vais vous lire la cabane idéale. Mais c'est un régal et pour les yeux et pour...
Et
pour les oreilles et pour tout ce qu'on veut et pour les souvenirs.
Le
quand on le lit, il y a forcément des souvenirs qui ressurgissent, des souvenirs de l'enfance. Donc je trouve que c'est un livre à partager vraiment en famille. C'est un gros livre en plus. Hein.
C'est une boîte de Madeleine.
Ouais, c'est une boîte de Madeleine, c'est ça. C'est un livre d'une centaine de pages avec le dessin très simple de Charline Colette, mais qui colle parfaitement au propos. Et puis il y a cette petite BD. Allez, je vous lis. La cabane idéale. La toute première cabane qu'on a faite, c'était pendant les vacances d'été. On s'ennuyait un peu, alors on a eu l'idée d'aller dans la forêt en construire une. On a pris plein d'outils, une hache, une serpe, une pelle, un râteau, et on est parti au bois. On a choisi un coin avec un très gros arbre pour supporter le poids de la cabane. Ensuite, on a préparé l'endroit. On a ramassé des petits morceaux de bois sec. Les plus gros, c'était pour la structure. Puis, on a tout assemblé. Quand on voyait un trou dans la paroi, on y mettait des feuilles. Au départ, on voulait juste faire une petite cabane. Mais au fur et à mesure, c'est devenu une vraie maison. On disait que c'était notre maison. On prenait nos goûters dedans. On y invitait des copains. C'était devenu la cabane du village. Tous les enfants savaient où elle était. Depuis la cabane, j'ai vu des animaux. Ils passaient comme des fusées. C'est arrivé qu'elle soit détruite à cause de l'orage, que des bouts tombent. Mais on recommençait. On la reconstruisait. Quelquefois, on rêvait d'une cabane indestructible qui résisterait à toutes les tempêtes, à tous les vents. Mais si elle était plus solide, on ne pourrait plus jouer à la faire tenir debout. On n'aurait plus rien à reconstruire, rien à réparer. Alors moi, je préfère qu'elle soit un peu fragile et qu'elle ait toujours besoin de nous. Voilà, une des histoires de ce hautbois de Charline Colette.
Là, ils sont en été.
Oui, c'était pendant l'été, effectivement. Et vraiment, je vous invite à découvrir ce livre et à vous plonger dans cet univers. Alors, c'est super, avec les enfants, vous pouvez lire une histoire. Deux, trois, toutes, selon le temps que vous avez. Mais vous serez conquis, je l'espère, comme moi je l'ai été par le dessin. Et puis par cette petite narration, voilà, comme si on avait plein de petits témoignages qui nous venaient, mais qui en même temps venaient des mêmes personnes. Mmh. Puisque ce rapport entre l'homme et puis les bois, en fait, c'est un côté intemporel. Et puis je crois que tous les enfants vivent les mêmes choses. Dès qu'on leur met un petit bâton dans les mains, en fait, ils vont commencer à faire une cabane. C'est exactement ce qu'on vient de lire. Donc voilà, c'est un beau livre qui fait du bien.
Ah ouais.
Et puis nous, on va prendre tout ce qui fait du bien en ce moment. Alors on va prendre un petit peu de musique également. On va retourner avec nos comptines vanille. Voilà, avec un morceau qui s'appelle Yetioja Yawaye.
Jawaye karumundu lillahi jawaye karumundu
etso jawaye karumundu lillahi jawaye karumundu
etso jawaye karumundu. karumundu lillahi ujawaye. Jawe ya tiro rengo shonga maondo heo
washanga maondo ha oh washanga maondo ha oh washanga maondo ha oh washanga maondo ha
jawe ya tife na jawe ya tiro rengo shonga maondo heo
Shanga mawa ondoha, oh Shanga mawa ondoha, oh Shanga mawa ondoha, oh Shanga mawa ondoha.
C'était donc Yetsoja Yewae. C'est beau.
C'est beau.
Eh bien, celle-là, ça vient des îles Comores. Ce morceau-là. Alors vous allez voir, vous allez voyager avec ce livre, hein, ce que je vous ai dit tout à l'heure avec ce livre CD. Là, on était donc aux îles Comores, et puis il y a des morceaux d'Afrique du Sud, du Mozambique, du Kenya, de Madagascar, donc des îles Comores.
Ah oui, on voyage bien.
Ah oui, non, c'est un pur bonheur ce livre, moi j'ai adoré. Allez, on va se faire deux petits livres. Vous allez faire un livre des opposés, on va
des
dire
opposés.
Ça. Et puis moi, je vais faire un livre des contraires.
De la symétrie.
Voilà.
Donc j'étais au pays de Ava et Ève, Dan Marco Rammstein. Et nous sommes chez Albin Michel, à la collection magnifique de Trapèze.
On n'arrête pas de dire que c'est magnifique. Ouais. Donc à un moment donné, si vous n'avez pas compris que la collection Trapèze, elle est bien, voilà. Nous, on n'y sera pour rien.
C'est même pas une vraie collection, parce qu'il n'y en a pas un qui se ressemble. Hein.
Si, c'est une collection. On va dire que c'est quand même des...
Si, on voit bien le fil conducteur. Hein,
enfin, des textes graphiques, voilà. Ouais.
Et donc, au pays d'Ava et de Ève, Ava et Ève, ce sont des jumelles qui habitent un pays où tout est en symétrie. Et ils invitent un petit garçon qui s'appelle Bob, comme Ève, Ava. Voyez-vous, on rentre dans l'univers des palindromes. Ava et Ève habitent un pays de palindromes. Et tout est en symétrie. Alors, vous savez ce que c'est le palindrome ? Nous sommes dans une ville...
On est quand même l'émission qui se passe dans la ville palindromique française. Quoi.
Voilà, la grande ville palindromique du
monde. Non, la plus grande ville palindromique française, quand même, il faut le dire. Donc,
voilà.
Écoutez Laval. Laval, ici Laval, quoi.
Voilà, c'est ça. Et donc Bob va...
Donc pour ceux qui ne savent pas quand même un palindrome...
Un palindrome, ça se lit...
c'est un mot qui se lit dans les deux sens.
Dans les deux sens, voilà. Comme Bob, Ève, Ava...
Et Laval.
Et Laval, mais on va aller loin... Enfin, je ne sais pas si c'est peut-être à côté de Laval, d'ailleurs, ce pays extraordinaire d'Ava et de Ève. Et Bob accepte leur invitation et découvre leur pays. Ils emmènent Bob faire du vélo, à traverser des forêts, mais tout est en regard, tout est en symétrie. Et évidemment, chaque double page a une illustration assez incroyable, avec des couleurs très fortes et en même temps parfois des bleus un peu glaçants. Enfin, c'est un exploit graphique, je trouve, ces illustrations, c'est absolument dingue. Donc on va avoir une double page où c'est marqué T-O-T, et avec le matin qui se lève. Et puis c'est Ève à vélo. Et comme ils font du vélo, on va avoir le mot sel au pluriel en bas. Et celle au pluriel peut se lire comme un palindrome dans l'autre sens. Et chère maman, aujourd'hui, nous avons visité l'île à vélo. Impossible de doubler Ève, elle est trop rapide, voilà. Et à chaque fois, Bob écrit à sa maman, ils vont faire du kayak, évidemment. Hein. Et puis ils vont manger à 12h21. Voilà. Comme ça, ils peuvent manger dans les deux sens. Et dans ce pays d'Ava et d'Ève, quand on lit des histoires, on les lit dans un sens une fois et on les relit dans l'autre sens une autre fois. Donc voilà. Et puis, c'est l'été, hein, au pays d'Ava et d'Ève. Voilà. C'est vraiment un ovni, comme d'habitude, chez Trapèze. Mais c'est vraiment un ovni. C'est-à-dire, je n'ai jamais vu un livre comme ça. Je vous assure, M. Simon, jamais je n'ai vu un livre comme ça.
Bah, c'est pour ça qu'on adore cette collection. C'est qu'elle est capable de nous surprendre.
C'est extraordinaire. Alors, ça nous embarque.
Déjà, le travail, de toute façon, de Dan-Margot Rammstein est très, très singulier. Elle a été, pareil, elle a eu des reconnaissances un peu partout dans le monde. Mais ça reste quand même des livres qui ne sont pas faciles d'accès.
Je crois qu'il faut se...
Mais là, il y a le jeu. Je trouve justement le fait de jouer entre son graphisme et puis ce jeu de miroir.
Et puis les jeux de mots.
Tout le monde aime jouer. Donc,
est vraiment dans un jeu et quelque chose de l'enfance aussi. Pop, ça fait le volcan quand ça explose.
Eh bien, moi aussi, je vais parler d'un livre qui m'a beaucoup plu, complètement différent sur les styles graphiques en tout cas, mais il y a quand même quelque chose qui peut s'en rapprocher. Ce livre s'appelle Forêt des arbres, publié chez Actes Sud Junior, et il est écrit et illustré par Yukiko Noritake. Yukiko Noritake, comme son nom l'indique, est japonaise, mais elle vit en France depuis maintenant plusieurs années, et c'est donc l'un de ses premiers livres en français. C'est un ouvrage absolument remarquable. Alors, dans un style graphique assez classique, je pense que c'est de la gouache, en tout cas,
c'est un peu du battu, là.
De très grandes places. C'est un grand album, déjà. Et puis, on va suivre deux frères. Sur la page de gauche, il y a le premier frère, brun. Sur la page de droite, il y a le deuxième frère, blond. Les deux vont faire presque pareil, mais tout le temps un petit peu différent. Et leur rapport avec la forêt va jouer sur ces petites différences qui se découvrent évidemment dans l'image, mais aussi qui vont se découvrir dans le texte. La première page, elle est identique, c'est une rencontre. Une jeune fille vient à leur rencontre, et les animaux de la forêt sont aussi ici. Dans la deuxième page...
On les voit de haut ?
Oui. Dans la deuxième page, celui de gauche, c'est « être ici, juste bien ». Il est au milieu de la forêt avec son ami. Les animaux sont toujours autour de lui. Dans le deuxième petit personnage, c'est penser à la suite. Il a abattu quelques arbres. Les animaux sont en train de s'en aller. Il a un outil à la main. Deuxième double page, à gauche, se faire une petite place. Ils ont coupé 3 arbres, c'est tout. Côté, faire de la place. Il a coupé la moitié de la forêt. Faire avec ce qu'on a, avec les arbres qu'il a coupés, il fait des planches, il est construit son petit chez-soi. Faire ce qu'on fait ailleurs, du béton. Voilà. Et à chaque fois comme ça, on va voir sur ces petits détails,
c'est mis en regard,
deux façons de vivre. Alors ce qui est super, c'est que on n'a pas un jugement direct.
C'est
en fait.
Bien, c'est pas bien.
Non, voilà, c'est pas on stigmatise l'un pour l'autre. On laisse l'enfant faire sa vie avec ça. On peut en discuter éventuellement, mais c'est un livre qui ouvre et pas qui ferme, et qui permet l'échange et de faire passer des notions si on a envie de les faire passer, mais en douceur. C'est un livre magnifique qui vraiment se lit à voix haute, se lit avec l'enfant, dans lequel on va pouvoir discuter des deux choix que vont faire les deux frères. On peut les discuter, les approuver, les désapprouver. En tout cas, chacun va y mettre un peu ce qu'il a envie de mettre.
Ils se rejoignent à la fin.
Non.
Et c'est la mère qu'on voit là.
Et oui, c'est la mer, oui.
Elle est belle, elle est verte.
Oui, elle est verte. D'ailleurs, il y en a un des deux qui voudrait qu'elle soit plus bleue.
Qui met une piscine ?
Oui, parce que pour qu'elle soit plus bleue.
Je vois qui c'est.
Allez. En tout cas, allez découvrir cet ouvrage, franchement, Forêt des arbres de Yukiko Noritake. C'est très, très beau. Allez, on va présenter... Oh oui. Un album là qui est absolument magnifique. Je vous laisse en parler.
Alors, l'histoire de cet album, c'est un cahier qui a été retrouvé. Un cahier où un enfant de 8 ans avait une punition et il devait écrire, c'est pas vraiment une punition, c'est qu'il devait renforcer son écriture et son style, et il devait écrire une phrase de ce qu'il avait fait chaque jour, c'était sa consigne. Et il se trouve que ce cahier a été écrit en 1939, en Pologne. Et ça s'appelle « J'ai vu un magnifique oiseau » de Michal Skibinski. Donc c'est le jeune garçon de 8 ans. Et de Alla Bancroft, qui est l'illustratrice. C'est l'année 1939 en Pologne. Cette année-là, j'avais 8 ans. Chaque jour, durant l'été, j'inscrivais une phrase dans un cahier. Une chose qui m'était arrivée, c'était mon devoir de vacances. La condition qui me permit de passer en classe supérieure. Ce cahier, je l'ai conservé aujourd'hui. Donc on ouvre ce cahier, qui est évidemment illustré cette fois-ci par Alla Bancroft, illustré de façon extraordinaire, magnifique, des peintures pleines pages. Il y a même une critique que j'ai lue qui dit « ses talents à bord perdu ». Je trouve ça très beau, je le répète, parce que c'est trop beau. Et c'est vrai qu'on a l'impression que ça coule au-delà, qu'on rentre dans ces forêts polonaises. Je reparle de la forêt. Les couleurs sont sublimes, les cieux sont magnifiques. Le 16-7-1939, je suis allée à l'église. Le 18-7, je suis allée dans la forêt avec un copain. Le 19-7, j'ai raccompagné maman à Wavre. Je ne sais pas si je le prononce bien. Le 26-7, un avion a fait des cercles au-dessus d'Anin. Je ne connais pas bien les villes de Pologne, je suis désolée. Puis ça doit être des villages en plus, parce qu'on est en pleine nature polonaise. J'avance un petit peu. Le 3 août 39, je suis allée à la gare d'Anin. Le 13 août, j'ai fait une promenade avec grand-père. Et on est toujours dans la forêt, on est toujours dans ces traits de peinture absolument dingues et très très beaux. Le 21 août, j'ai jardiné avec grand-mère. Le 25 août, j'ai lu une belle histoire. Le 29 août, papa est venu me rendre visite. Et les bois s'assombrissent un petit peu. Le 30 août, j'ai joué avec Magdalena. Ma nourrice est venue me voir, enfin voilà. Et le 1er septembre 1939, les arbres sont sombres et la guerre a débuté. Et le 2 septembre, je suis arrivée à Milanovec. Voilà. Donc c'est évidemment cet événement absolument terrible qui s'est passé en Pologne et le démarrage de la Deuxième Guerre mondiale avec les Allemands qui attaquaient la Pologne, vu par un petit garçon de 8 ans, immergé dans la nature. C'est une vraie histoire. Ce petit garçon est toujours en vie. Il est né en 1931. Et donc son cahier a été mis en valeur d'une façon absolument magnifique. On est chez Albin Michel, encore. C'est traduit du polonais par Lydia Valerizak. Voilà. Et allez le voir. Vous, dans les mains, vous tenez la Pologne, la nature polonaise.
Vraiment un très très bel ouvrage. On enchaîne avec un. On va passer quelques romans, en fait. On va on va remettre. À chaque fois qu'on parle d'un truc triste, en fait, on va parler d'un truc gay.
Bah oui.
Et j'aimerais bien que vous nous parliez de Notre part de ciel de Taupe et Mulot.
On est vraiment dans la forêt, le ciel et tout. Voici Taupe et Mulot qui reviennent pour une troisième histoire, Notre part de ciel. Henri Meunier au texte, Benjamin Chaud à l'illustration, on est chez Helium. Et Taupe et Mulot, là, c'est trois petites nouvelles, je dirais, parce qu'on assume, sur leurs aventures dans la forêt. La première étant une nouvelle, de sagesse, de méditation. Hein. Ils ont décidé de ne rien faire. Je vous lis juste la première page, parce que c'est l'audace d'Henri Meunier dans son texte que je veux accompagner, que je veux vous convaincre de prendre et de donner aux enfants. Ne rien faire du tout et être heureux comme tout, c'est un art délicat. Taupe et Mulot s'entraînent sans la moindre faiblesse. Après un pique-nique raffiné, les voici qui s'infligent un moment de repos. Leurs pattes barbotent dans l'eau claire de l'étang. Ils se laissent bercer par les stridulations des cigales. Ils soupèsent le pour et le pour. Partagent en murmure certains de leurs secrets. Que faire d'autre ? Tout est été. Voilà. Voilà, je vous avais juste un petit...
Non, mais c'est super, de toute façon, moi, je suis ultra fan.
C'est incroyable. J'avoue, j'avais lu les autres, mais je les avais lus vite, dans un mauvais contexte, sûrement, parce que je ne suis arrêtée qu'au troisième.
Taupe et Mulot, c'est partie des petites séries qu'il faut prendre le temps de lire.
Bien sûr.
Ça prône tout à fait.
Mais je savais que j'allais le retrouver le temps. Un petit coup de cœur pour la dernière nouvelle, où là, vraiment, c'est remarquable, puisque taupe va s'attarder sur le chemin et va apprendre le chemin par cœur en nommant chaque caillou, parce qu'il a un problème, taupe. Enfin, c'est pas un problème, c'est sa nature, il est myope, très très myope, il voit rien. Et Mulot, pendant ce temps-là, apprend à faire du vélo. Et pour son anniversaire, taupe offre un tandem à Mulot, qui dit « mais je sais pas faire du vélo ». C'est pas grave, j'ai appris le chemin par cœur, c'est moi qui vais conduire. C'est bouleversant, sublime.
Mais non, mais c'est bien. C'est, moi, j'adore. Donc, allez découvrir les trois, il y a trois tomes.
Oui,
ils vont faire les quatre saisons, en fait. Hein, donc, chacun est pour une saison.
Il serait capable d'en inventer une cinquième, je suis sûr.
Oui, bien sûr, j'espère en tout cas. Moi, je voulais vous parler d'une nouvelle collection qui vient de paraître chez Actes Sud Junior. La collection, elle s'appelle Solo, lecture solo. Donc, c'est des petits romans assez courts, avec quelques illustrations, pas trop, un petit peu. On est un peu dans la même longueur que les petites poches de Thierry Magny. Ouais. Et voilà, ça permet d'avoir des textes qui sont vraiment sensibles pour les premiers lecteurs, mais qui ont déjà envie d'avoir des livres un petit peu conséquents, ouais. Ou au contraire, des lecteurs un peu plus âgés qui veulent avoir des textes courts, faciles à lire. Voilà, dans les quatre qui sont parus, on a quand même un texte de Séverine Vidal, et puis moi j'ai choisi un petit texte de Thomas Cotto qui s'appelle « Même mon prénom est une chanson » qui est adorable. C'est l'histoire d'une petite fille qui a des parents et un petit peu honte de ses parents. En fait ils font du baloche, et son père il fait de l'accordéon et sa mère elle chante des chansons des années 40, voilà. Alors tous les gens les adorent mais elle a un petit peu honte de mettre qu'ils sont dans la musique, parce qu'on pense tout de suite oui. Ils font des tubes et tout. Donc voilà, donc c'est ce rapport là qui est très très bien vu, encore une fois, évidemment, par Thomas Cotto. De toute façon, tout ce qu'il fait, c'est génial. Donc voilà. Allez voir cette petite collection, elle est vraiment à découvrir. Elle s'appelle Lecture Solo.
Lecture Solo.
Ouais, Solo. Je voulais vous dire juste un mot aussi sur un ouvrage que j'ai beaucoup aimé qui s'appelle donc Juste un mot.
Voilà. Ah bah oui,
justement. C'était une blague.
Pardon.
Non, alors là, on va reprendre un peu notre sérieux. C'est un très beau texte de Frédéric Vinclair, qui s'appelle donc Juste un mot. Ce texte-là, en fait, il a été initié par un concours d'écriture qui s'appelle le concours Émergence, qui est organisé par la Charte des auteurs, où tous les ans, en fait, il y a une dizaine d'auteurs qui sont récompensés et qui vont être accompagnés dans leur démarche de première écriture avec des écrivains reconnus qui vont les aider, en fait, dans l'écriture, leur donner des conseils, donner les conseils aussi par rapport à la charte et compagnie. Mmh. Et donc, Frédéric Vinclair a eu son texte qui a été récompensé. Et ça, c'est le roman issu de sa nouvelle.
D'accord.
Il l'a étoffé, voilà. Et c'est un très très beau texte, une correspondance entre deux frères. L'un a des problèmes au collège, il est harcelé, en fait, en deux mots. Et l'autre, on comprend très vite qu'il est enfermé, pas vraiment dans un internat, plutôt dans un centre pour adolescents. Voilà. Les deux vont correspondre, donc c'est vraiment une correspondance entre les deux. Et petit à petit, les deux vont se dévoiler. Et étonnamment, c'est aussi le grand frère qui va beaucoup donner de lui-même. C'est un très beau texte sur la relation entre frères, sur tout ce qui est non-dit, et ce que peut rendre possible aussi la correspondance, l'écrit, l'importance de l'écrit aussi. Voilà, il y a une grande justesse, je trouve, dans le texte, mais aussi de l'humour. Mmh. C'est un texte optimiste aussi. Voilà. Donc Frédéric Vinclair, c'est vraiment un auteur à suivre, qui avait écrit un petit texte qui s'appelle « Fête sauvage » chez Thierry Magnier. Et puis plus récemment, un texte pour ados qui s'appelle « Nos bons sauts douces », qui était chez un petit éditeur qui s'appelle Le Calico. Donc voilà, c'est partie des auteurs que j'avais envie d'encourager. On arrive bientôt à la fin de l'émission. Est-ce qu'il nous reste un peu de temps? Je regarde Philippe. Oui, il me fait un petit signe de la tête. On peut donc parler un petit peu de romans ados. Vous avez choisi un roman ado?
Oui.
Je le vois et je l'adore, donc je suis ravie que vous ayez choisi ce texte.
Je me suis dépêchée de le terminer, là, mais normalement, je vais très lentement. C'est de votre faute si je me suis dépêchée de le terminer.
J'ai rien fait, moi.
Si, vous m'avez dit de le terminer. Voilà. Et donc, je ne l'ai pas choisi par hasard, puisqu'il se trouve dans la sélection du prix Thème Lire. Hein, donc,
quelle belle sélection.
Voilà, totalement. Et « Je te plumerai la tête » de Claire Mazard, hein, qu'on connaît bien depuis longtemps. On est chez Syros. Et il s'agit de... J'ai oublié le prénom, ça commence bien. Je n'ai pas fait de note. Parce que
Lilou.
Lilou, c'est ça. Papalou et Lilou, voilà, qui est une jeune fille qui est en première hein, et dont la mère est très gravement malade, elle se trouve à l'hôpital et qui a une relation avec son papa qu'elle appelle Papalou depuis très très longtemps. Elle a une relation, on va pas dire fusionnelle, mais de très extrêmement forte au niveau affectif. Elle est en admiration totale devant ce père. Elle est vraiment subjuguée par lui. Voilà. Et elle ne se rend pas tellement compte, mais elle est quand même... tout ce qu'il fait, c'est parfait. Elle n'a aucun sens critique vis-à-vis de ce papa. On est étonné au départ parce qu'elle voit très peu voir sa mère, son père lui ayant dit que lui, il allait la voir tous les midis, il n'y avait pas de souci, et que sa mère était très fatiguée, c'était pas la peine d'aller la voir, ça allait la fatiguer plus, voilà, et puis elle ne voulait pas qu'elle garde une image de sa mère comme ça. Et les failles commencent à se faire au fur et à mesure, enfin, à un moment, la jeune fille souhaite vraiment voir sa maman, elle va essayer elle ne le dit pas à son père, elle va essayer de partir entre midi et deux pour aller la voir à l'hôpital. Et là, elle rencontre sa mère, c'est un peu un choc parce qu'elle est en phase terminale, il faut dire ce qui est. Et donc, elle s'aperçoit juste d'une petite erreur. Pourquoi sa mère ne l'appelle pas, elle ne comprenait pas. Et le dernier chiffre de son numéro de téléphone n'est pas bon. Et c'est son père qui a noté ce numéro de téléphone. Et là, ça ouvre une première petite faille. C'est pas tellement normal. Elle commence à avoir des doutes. Et puis, elle se rapproche de sa mère. Pas énormément, parce que sa mère est quand même assez malade. Mais sa mère va l'aider à passer dans sa chambre d'hôpital, va l'aider à préparer son bac de français. Elle va lui transmettre aussi tout son savoir, tout son amour de la littérature. Et là, elle va se rapprocher de sa mère. Et au fur et à mesure, on va s'apercevoir que sa mère essaye de lui passer un message comme quoi il faut qu'elle se méfie de son père, qui est quand même quelqu'un de bien dangereux.
On n'en dira pas plus, parce qu'effectivement, c'est un livre qu'il faut aussi découvrir. En tout cas, c'est un sujet très fort. C'est un roman qui tord le bidon.
Ah ouais,
c'est qu'il vous prend et puis il ne vous lâche plus. Et moi, au contraire, je l'ai lu très vite, parce que j'étais pris dans cette histoire. Et on me disait, Lilou, réveille-toi, voilà, enfin, on a envie de... Voilà.
Non, parce que...
Mais en même temps, moi, ça m'a rappelé les premiers textes que j'avais lus de Claire Mazard, qui m'avaient déjà fait cet effet-là, Le Cahier Rouge ou L'Absente,
ouais,
voilà, qui sont des textes extrêmement forts. Et j'étais très, très content de retrouver sur des thématiques comme ça, un peu fortes, voilà, donc ça fait vraiment plaisir. Juste pour finir cette émission, je voulais juste signaler un petit coup de cœur pour les éditeurs de créer enfin des collections de poches pour les romans ados,
ouais.
Parce que c'est vrai que ça nous manquait cruellement. Maintenant que le roman ado est installé, qu'il a son lectorat jeune, adulte et tout, c'est bien qu'on retrouve des petits prix aussi pour permettre aussi aux ados d'acheter eux-mêmes leur propre roman. Et là,
et
j'en ai fait une
petite sélection.
Oui, mais les ados, par définition, ils ont moins de sous.
Oui.
Donc, ces petits prix, ça permet aussi de rendre cette littérature disponible
accessible
pour eux, tout seul, en fait, sans l'aide des parents. Et donc, je voulais signaler. On sait que l'École des loisirs le fait depuis pas mal d'années, mais là, ils refont des versions de poche moins chères,
ouais.
Donc ça, c'est très bien. On sait que Pocket le fait depuis des années. Par exemple, là, ils viennent de publier Stabat Murder de Sylvie Alouche. Ils voulaient un très bon polar. Il a eu le prix de Temlire en 2018. Le Rouergue vient de lancer sa collection de poches, ce qui nous permet par exemple d'avoir Comment bien rater ses vacances,
ah
d'Anne
ouais,
Persin.
J'avais pas reconnu.
Un texte hilarant,
oui.
Voilà, franchement, pour les ados, qui fait du bien. Donc c'est une petite collection de poches.
Ça
voilà.
C'est un nom là
J'ai cherché, mais c'est les poches.
Parce que c'était de dos à dos.
Voilà,
c'est ça,
c'est les dos à dos qui vont
parler. Stabat Murder, c'est Pulp Fiction.
C'est Pocket. Non,
c'est
Pocket.
Non, c'est Pulp Fiction.
Et puis Gallimard, effectivement, avec Pulp Fiction, qui maintenant achète aussi pas mal de textes ailleurs, donc qui ont été publiés chez d'autres maisons d'édition. J'ai sélectionné deux nouveautés qui sont symboliques de ça. Le Mili Vodovic de Nastasia Rugani, qui était publié chez Memo. Prix Sorcière 2019, Prix Vendredi, un roman qui est absolument sublime. Donc il existe maintenant en poche à 6,30€, donc ça c'est vraiment super. Et puis on aimerait que Nastasia Rugani nous réécrive des livres parce qu'on aime tellement ce qu'elle fait. Et puis un autre que j'ai choisi, c'est Le Bâche à poche de Charlotte Herly, qui était publié initialement chez Actes Sud, publié aussi en Pulp Fiction chez Gallimard. voilà, ça fait du bien, ça permet d'avoir vraiment des textes accessibles, pas chers. Donc voilà, c'était un petit coup de cœur. Hein. Je fais souvent des coups de gueule, mais c'est bien de faire des petits coups de cœur. Ouais. Allez, on va se quitter en musique avec. On va retourner dans nos pays des îles, dans nos pays des îles. Ça ne veut rien dire.
dans nos
comptines berceuses de vanille, voilà. Avec une version de Frère Jacques, assez particulière, chantée par Nawal Mileano et Mélissa Peter. Je vous laisse tout ça. Véronique, à bientôt.
Au revoir, monsieur.
C'était Philippe à la technique. Merci, Philippe. Et puis, nous, on se dit au mois prochain.
Au revoir.
La 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 saga, la 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 saga, ma tourie. Chanter belle.